Merci Marie-Hélène. Bien écoutez, comme tous les intervenants, je tiens à remercier Eric Gross et Gennaro Toscano, même si je ne l'ai pas en photo et c'est vrai que nous sommes très complexés, Anne-Solène et moi, de m'avoir convié à ce colloque qui nous donne l'opportunité de nous interroger sur nos métiers et de prendre un temps de réflexion et de recul nécessaire sur nos actions. Alors j'ai proposé de partager avec vous l'expérience de notre dernière exposition qui est encore quelques semaines et quelques jours de vie au musée Gadagne, Lyon au 18e siècle surprenant, tout en faisant quelques apartés à la demande de Gennaro sur d'autres projets différents. Alors là, je rebondis de manière osée par rapport à ce qui a été dit dans la première partie de l'exposition, puisque nous avons traité d'un sujet extrêmement fédérateur qui a attiré énormément de monde et qui a aussi joué ce rôle d'émotion et d'appartenance à une tradition typiquement lyonnaise, puisque comme vous le savez tous, Lyon est la capitale mondiale de la gastronomie. J'évoquerai également de manière très, très partielle une exposition que nous venons d'ouvrir, qui est une exposition découverte sur Lyon, la rivière et le fleuve, pour aborder des questions et des problématiques tout à fait similaires que nous nous posons quand nous montons une exposition d'histoire. Parce que oui, comme l'a rappelé Marie-Hélène en introduction, monter une exposition d'histoire est difficile. Moi, je viens des arts décoratifs et je trouve qu'il est beaucoup plus aisé de montrer de beaux objets, je viens du textile, donc des textiles lyonnais notamment, que de mettre en objet, de mettre en exposition un récit historique. Donc pour Lyon, l'exposition Gourmandise, j'avoue que j'ai eu des grands moments de solitude sur comment traduire par des objets et des documents cette histoire. Pour le 18e, ça s'est révélé un petit peu plus facile. À Gadagne, nous développons trois types d'expositions. Une grande exposition comme Lyon au XVIIIe siècle, Gourmandise, histoire de la gastronomie à Lyon. Nous en préparons une sur l'exposition internationale urbaine de 1914. Nous développons des expositions découvertes qui sont de taille plus modeste, qui rassemblent environ 150-200 numéros. Et nous consacrons l'été à deux expositions, une ou deux expositions, ça dépend, que nous allons progressivement lier à la marionnette, puisque le Gadagne rassemble le musée d'histoire et le musée des marionnettes du monde. Avant de commencer et à rentrer dans le vif du sujet, j'espère que les photos rentrent plus, oui, ça va. Je tiens vraiment à vous faire part des difficultés que nous rencontrons pour monter des expositions. Nous sommes dans un bâtiment ultra protégé. Les murs sont même protégés et les espaces d'exposition, 350 mètres carrés, mais morcelés en quatre espaces, sont extrêmement contraignants. Nous devons faire face à des hauteurs de plafond relativement faibles et surtout à des murs dans lesquels nous ne pouvons absolument pas toucher. Alors pour accrocher, c'est un peu compliqué. Donc nous sommes en train de travailler avec les services techniques de la ville et avec l'ABF pour envisager des solutions pour permettre un accrochage plus facile et plus aisé de nos expositions. Je reviendrai sur l'éclairage, sachant que le nombre de rails qui a été envisagé est insuffisant. Et même si l'éclairage est beaucoup moins fondamental pour raconter l'histoire que pour une exposition comme celle que vous nous avez présentée, Monsieur Hilaire, sur Caravage, néanmoins, l'éclairage fait un petit peu défaut dans ces espaces d'exposition. Je préfère vous en alerter pour pas que vous en soyez surpris. Alors l'origine du projet se trouve dans un projet beaucoup plus vaste qu'a piloté la région Rhône-Alpes autour de l'année Rousseau. Donc toute une série d'institutions dans la région se sont fédérées pour évoquer la présence et les voyages de Jean-Jacques Rousseau en Rhône-Alpes. Et les institutions municipales y ont également activement contribué. Vous parliez des bibliothèques, Marie-Hélène, tout à l'heure. Nous travaillons énormément avec la bibliothèque municipale de Lyon qui a consacré une exposition à Jean-Jacques Rousseau dans la région Rhône-Alpes. À partir de ces riches collections, les archives municipales ont consacré une exposition à la famille Morand à partir des archives privées de la famille. Et donc, nous avons choisi, Gadagne a choisi avec ces deux autres institutions, de donner un cadre général à ses propos, de raconter le Lyon que les Rousseau et Morand ont connu et dans quel contexte intellectuel ils ont évolué, dans quelle ville ils ont vécu. Donc, cette exposition s'inscrit dans une manifestation plus large et met en évidence la nécessité, je crois, aujourd'hui, et l'exemple d'hier après-midi l'a également montré, de travailler en réseau. Donc, on travaille avec les autres institutions de la ville, on travaille presque plus, on a des projets avec d'autres villes européennes, on en parlait à l'instant, plutôt qu'avec d'autres musées français, ce que je regrette, mais ce travail en réseau est aujourd'hui non seulement extrêmement enrichissant et nécessaire, aussi puisque nous sommes un petit peu moins riches qu'il y a quelques années. Alors ce travail en réseau concerne certes les autres institutions, mais implique que d'autres institutions telles que les universités, les laboratoires de recherche, là je rebondis sur l'introduction de Philippe Dagen à ce colloque, puisque à mon arrivée à Gadagne, il m'est apparu tout à fait indispensable de travailler avec les universités et les labos de recherche de Lyon et de la région. Chaque exposition, comme chaque journée d'études, et même le musée d'histoire, va avoir un comité scientifique dans quelques mois. Donc chaque exposition est accompagnée d'un comité scientifique composé de spécialistes au regard et aux approches diverses du sujet traité. Je crois qu'un sujet d'histoire, nous y reviendrons peut-être dans le débat, nécessite ces multiples entrées et ces multiples regards. Alors ce comité scientifique, au-delà de la préparation de l'exposition, constitue ce lien entre le musée qui s'ouvre sur un large public, les deux conférences de ce matin l'ont parfaitement montré, et donc constitue ce lien avec le monde de la recherche dans toute sa diversité. Alors pour l'exposition Lyon au XVIIIe siècle, je vous énumère rapidement les membres de ce comité scientifique. Nous avions un professeur du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, spécialiste de l'histoire de la danse, associé à Lyon 2, un historien spécialiste de l'histoire de la musique et de l'opéra attaché à la bibliothèque municipale, un professeur de Lyon 2 également rattaché au LARA. Le LARA est un très gros laboratoire de recherche régional, spécialiste en histoire économique et en histoire urbaine, un historien spécialiste de Jean-Jacques Rousseau qui a fait le lien entre l'exposition et les autres manifestations régionales, un professeur de Lyon 1 spécialiste en histoire des sciences qui nous a mis en contact avec des professeurs absolument extraordinaires sur l'histoire des mathématiques, l'histoire de la botanique et des sciences naturelles, très importantes à Lyon au XVIIIe siècle. Était également associé un conservateur spécialiste de l'histoire liturgique et religieuse, un chercheur au CNRS spécialiste de l'histoire industrielle, je me suis incluse dedans pour les arts décoratifs et le textile, et évidemment toute l'équipe des musées Gadagne, et en particulier Dorothée Gilman qui est ici, qui est en charge de la coordination des expositions à Gadagne. Alors j'ai également associé des personnalités que je qualifie issues de la société civile, qui se sont associés à nos travaux. Ce sont des personnes qui ne sont ni historiens, ni historiens de l'art, ni ethnologues, qui sont juste, entre guillemets, des chefs d'entreprise, des directeurs de communication, qui ont d'autres métiers non liés à nos métiers, à nous. Et cette association est tout à fait importante parce qu'ils nous ramènent, ils sont ancrés dans le monde contemporain, ils nous rappellent le nécessaire aller-retour entre le présent et le passé, la nécessaire actualité du passé pour capter l'attention et l'intérêt de nos publics, pour leur apporter, au-delà de l'histoire que l'exposition va raconter, une compréhension de l'histoire contemporaine et de l'histoire de la cité. Alors, il faut dire que l'actualité nous a beaucoup aidés, puisque concernant les édifices du XVIIIe siècle encore présents à Lyon, il y en a un qui fait la une de la presse locale depuis plusieurs mois, c'est l'Hôtel Dieu, donc un édifice de Soufflot, construit dans les années 1741, et qui, depuis le départ des services hospitaliers en 2010, fait l'objet de grands débats autour de sa réhabilitation. Et c'est vrai que d'expliquer son histoire, sa place dans l'histoire urbaine de Lyon, dans l'histoire des hôpitaux en Europe, par son caractère novateur, dans l'histoire de la médecine, sont des données tout à fait fondamentales pour appréhender aujourd'hui sa nécessaire conservation et mise en valeur. Je précise que dans le cadre de nos conférences du samedi après-midi, Didier Réplin, qui est l'architecte en chef des monuments historiques, qui s'occupe de l'Hôtel Dieu, a fait une intervention absolument brillante. Et nous avons fait le plein, nous avons refusé du monde. Notre petit théâtre comprend 140 places. Un samedi après-midi, je crois que c'était fin janvier, au moment des soldes, pour vous donner l'intérêt de la population pour son patrimoine. Non, c'est très dur, une période de soldes, hein, ce jour. Alors, pour illustrer cette présence de la société civile, entre guillemets, dans le comité scientifique, un des chefs d'entreprise du comité nous a par ailleurs alerté sur l'actualité des couleurs. Alors, je ne suis pas aussi savante que M. Hiller, je n'ai pas mis tous les codes de référence des couleurs choisies que nous ont proposées les muséographes. Enfin, elles sont toutes inspirées de la balançoire de Fragonard. Et ce chef d'entreprise nous a alerté sur le fait que ces couleurs étaient tout à fait inscrites dans les tendances de la mode et de l'art de vivre des 5 prochaines années. Et outre le plaisir que nous avons tous ressenti d'être pour une fois à la pointe des tendances de la planète mode, nous avons tous validé ensemble l'idée de faire venir d'une collaboration avec l'agence Nelly Rodi, qui est une grande agence de tendance parisienne, mais qui fait des réunions à Lyon, capitale du textile, extrêmement régulièrement. Et une de ces réunions s'est déroulée à Gadagne, avec la seule exigence que Nelly a complètement adoptée, je crois qu'elle va, elle va le poursuivre dans ses autres réunions, c'est d'associer en première partie deux historiens qui ont abordé l'utilisation dans l'histoire de la mode, des textiles et de l'art de vivre du XVIIIe siècle, de ces différentes interprétations, voire détournements qui en ont été faits par certains spécialistes du marketing, de la communication du commerce, comment ce XVIIIe siècle revisité est devenu un ambassadeur du goût et de l'art de vivre français à l'étranger, avec toute une analyse du concept la durée tout à fait intéressant et des tendances mode à horizon 2015. Alors cette approche peut paraître un peu décalée dans le cadre de cette exposition, elle nous a néanmoins permis d'inscrire le musée d'histoire dans le monde d'aujourd'hui, de permettre à notre public de prendre un certain recul, accessoirement à certains chefs d'entreprise, de connaître Gadagne et le chemin qui mène à Gadagne. Et elle a également dépoussiéré l'image parfois ennuyeuse que peuvent avoir certains musées d'histoire locale. Alors pour revenir au comité scientifique, les objectifs ont été les suivants. Problématiser le propos, en faire une exposition de synthèse, contribuer au catalogue de l'exposition qui est ici et qui suit par... Merci Marie, que je viens d'offrir à Marie. Qui reprend évidemment notre fauteuil Nogaret customisé et qui suit très scrupuleusement jusque dans les couleurs de chaque chapitre le plan de l'exposition en approfondissant évidemment la problématique posée. L'exigence est d'un catalogue plutôt grand public et j'ai imposé très sévèrement aux universitaires et chercheurs qui ont contribué des textes de 15 à 20 000 signes grand maximum avec 20 notes en bas de page pour permettre à des non-spécialistes de prendre le plaisir d'avoir une synthèse de très haut niveau. Le troisième objectif est d'établir une stratégie scientifique, là pour le coup, plus pointue, pour répondre aux différents besoins d'histoire de nos publics, j'y reviendrai, et enfin valider les propositions en termes de contenu de la médiation, puisque le service des publics a été associé dès la première réunion au comité scientifique. Alors le point de départ là, de notre réflexion est le constat largement établi dès le XVIIIe siècle. Je vous présente celui qui nous a accompagnés pendant toute la préparation de l'exposition, qui est Léonard Michon, qui a eu la bonne idée d'écrire entre 1717 et 1744 un journal qui relate tout ce qui se passe à Lyon. Et il porte un regard sur ses contemporains, signifiant que les Lyonnais sont beaucoup plus habiles pour lire les comptes de résultats et les bilans financiers que pour s'intéresser aux choses de l'esprit. Ce que Lamartine, quelques années plus tard, dira en disant que les Lyonnais sont plus occupés à faire des affaires et n'ont pas le temps de réfléchir et de penser. Bref, tout cela donne l'idée d'une cité qui serait passée à côté des idées des Lumières, ce que reprend d'ailleurs Maurice Gardenne dans son ouvrage monumental de Lyon et les Lyonnais au XVIIIe siècle, qui explique ce relatif des intérêts pour ce siècle, notamment, donc il cite plusieurs exemples, notamment par le récit qu'Arthur Young fait de la ville à la fin du XVIIIe siècle, où il livre une vision d'une ville apocalyptique de la ville de Lyon, une ville pauvre, sale, noire, touchée de plein fouet par la crise économique, sans aucune vie artistique et intellectuelle. Alors on a plusieurs écrits, dont les lettres de Madame Roland, écrites dans les mêmes années que l'ouvrage d'Arthur Young, qui montre une vision plus nuancée de Lyon dans ces années à la veille de la Révolution. Nous sommes donc partis sur une problématique liée à la vie intellectuelle pour vite en mesurer les limites et constater qu'aucune synthèse n'avait été réalisée sur Lyon au XVIIIe siècle. Je précise que j'ai eu du mal pour certains sujets à trouver des auteurs, ce qui montre qu'il y a peut-être des champs d'études pour ceux que ça intéresse en tous les cas à prendre. Comment traiter de la vie intellectuelle à Lyon sans aborder par exemple les questions urbanistiques, d'autant qu'un Perrache ou qu'un Morand font partie de l'Académie de Lyon où ont lieu la majorité des débats d'idées. Alors on a constaté que plusieurs expositions, surtout à la bibliothèque municipale, avaient eu lieu traitant d'un sujet ou d'un aspect de Lyon, mais sans en comprendre l'imbrication des différents éléments constitutifs de cette histoire. Nous avons donc choisi, je mets la petite citation de Comte Alexandre Coligny pour justement contrer notre affreux Léonard Michon et son jugement très sévère sur les Lyonnais du XVIIIe siècle. Comme Alexandre Coligny était un des secrétaires de Voltaire qui venait très souvent à Lyon, qui était généralement bien accueilli par la population. Enfin, Voltaire a plus d'écho que Rousseau dans la ville de Lyon. Et surtout, il y avait tous ses banquiers et il venait régler ses affaires. Alors, nous avons choisi, même si parfois l'ampleur du sujet nous a fait un petit peu peur, d'aborder, donc je vous montre toute une partie de nos amis qui nous ont accompagnés pendant la préparation de cette exposition, les enjeux architecturaux et urbanistiques, les pouvoirs en présence à Lyon, autant politiques que religieux et leur rivalité, les pouvoirs économiques et financiers, en insistant sur le côté très international de la vie économique et financière lyonnaise, qui permet, de par la richesse générée, de voir éclore une vie intellectuelle vive et éclairée dans une ville sans parlement et sans université. Alors nous avons fait une série de choix de réaliser une exposition de synthèse, donc avec forcément beaucoup de choses, mais juste certains sujets effleurés. Le retour de nos visiteurs sont assez surprenants. Il y a énormément de choses, mais là on aimerait en savoir plus. Il arrive un moment, je n'ai que 350 mètres carrés. Et puis il ne faut pas non plus surcharger trop le propos. Donc un propos clair et problématisé qui raconte une histoire traduite par des objets et des documents en leur donnant un sens, en les utilisant pour illustrer un argument ou un élément constitutif de cette problématique, doté d'une programmation riche et multiple pour enrichir les approches de l'objet. J'y reviendrai tout à l'heure et c'est extrêmement important pour les musées Gadagne, qui permettent et qui favorisent une certaine mixité des publics et tout en dégageant les spécificités de Lyon au XVIIIe siècle dans l'Europe des Lumières, permettant surtout de mettre l'histoire locale en perspective avec l'histoire nationale et européenne. Je crois que c'est un enjeu tout à fait crucial, mais je pense que Marie-Hélène, vous y reviendrez, pour les musées de ville, de se mettre toujours, de prendre un peu l'ascenseur et de se mettre en perspective avec ce qui se passe ailleurs. Alors, je vais répéter un peu ce qui a été dit hier, donc je vais passer vite, puisque nous avons tenté d'user des mêmes partis pris muséographiques pour clarifier le propos. Donc, l'exposition commence par une immersion des visiteurs dans le Lyon du XVIIIe siècle, pour ensuite passer donc, dans une couleur et une ambiance différente pour les enjeux architecturaux et urbains, pour passer dans une ambiance plus feutrée à l'éclairage, la pièce est volontairement plus sombre, mais pour évoquer le côté un peu caché du pouvoir et de ses rivalités, pour poursuivre dans une ambiance plus lumineuse pour les aspects économiques et artisanaux, et de progressivement, ça c'est une idée des muséographes qui n'est pas évidente pour nos visiteurs, je vous parlais des contraintes d'éclairage, nous passons progressivement vers une obscurité plus grande, puisque nous terminons cette évocation de la vie intellectuelle à Lyon par la fascination qu'ont eu les Lyonnais pour les sciences occultes, de la franc-maçonnerie au mesmérisme, et donc de le plonger progressivement dans cette ambiance. Vous parliez des artifices de la muséographie, on essaye de jouer là-dessus, et surtout de structurer le discours, et moi ma grande crainte c'est que le visiteur se lasse, donc à chaque fois de le remettre et de susciter sa curiosité de manière permanente. Alors, comme je le disais, nous commençons par plonger le visiteur dans le Lyon du XVIIIe siècle, donc par la vue de Cléric de 1720, qui est une des vues les plus célèbres de Lyon au XVIIIe siècle. Et surtout, dès l'introduction, et ça, je n'ai pas le temps de l'aborder, mais nous avons travaillé avec l'École de management de Lyon autour d'études marketing qualitatives pour vraiment cerner le ressenti de nos publics, et la frise chronologique, et je l'ai lu dans plusieurs articles, est quelque chose de tout à fait important pour rappeler, l'exercice le plus difficile que nous avons fait avec Dorothée, c'est de sélectionner les 10 dates les plus importantes à Lyon et dans l'histoire de France et l'histoire de l'Europe, de manière à remettre les choses à leur place. Ensuite, nous plongeons le visiteur dans les plans. Nous avons toute une série de plans de 1714 à 1790 qui, grosso modo, montrent qu'en dépit d'un doublement de la population entre le XVIe et la fin du XVIIIe siècle, Lyon est resté dans ses mêmes limites urbaines, ce qui explique la nécessité qui est expliquée dans la salle suivante de projets urbains qui ne seront réalisés qu'au XIXe siècle, mais que cette problématique se pose de manière vitale dès le XVIIIe siècle. Alors, la question a été évoquée hier pour l'exposition 1917. Il y a un moment pour parler des choses et nous essayons, dans toutes nos expositions, là, l'exposition sur les fleuves marche bien parce que ça parle aux gens, et de raccrocher le propos historique à aujourd'hui est, à mon avis, enfin, on en reparlera parce que moi je débute dans mon domaine, est fondamental pour les accrocher, pour donner sens et pour permettre à nos visiteurs de se sentir concernés par l'exposition. Donc comme je vous le disais, le 18e est vraiment d'actualité à Lyon. Je parlais de l'Hôtel Dieu, mais aussi du quartier de la Confluence, qui est un des quartiers les plus modernes, qui finalise cette conquête sur l'extrémité de la presqu'île que Perrache avait déjà, dans les années 1770, envisagé d'aménager. De même, dans la sélection des documents pour donner une idée des débats intellectuels qui avaient lieu à l'Académie des sciences arts et belles-lettres, alors là on aurait pu remplir trois fois la salle d'écrit, nous avons choisi des débats qui ont un écho contemporain. Alors j'ai choisi volontairement la place des femmes dans l'administration, puisque Prost de Royer, dont vous avez le portrait, a fait tout un discours à l'Académie qu'il a publié après, nous sommes en 1786, sur la nécessité de l'État, et que l'État a beaucoup à perdre à ne pas employer plus de femmes dans son administration et de mieux exploiter leurs qualités et de les rémunérer, mesdames, à salaire égal. Enfin, même salaire. Nous sommes en 1786. Je crois que c'était plutôt sympathique. Nous abordons également, alors là, j'y reviendrai tout à l'heure, mais nous avons enregistré les textes plutôt que de surcharger d'écrits, un discours qu'a fait l'abbé Lacroix-Laval sur la nécessité et l'importance d'enseigner l'histoire pour former de bons sujets, ce qui a fait également débat il y a quelque temps. Nous parlons des maladies nosocomiales, puisque, comme vous le savez, on meurt 5 fois moins à Lyon qu'à Paris au XVIIIe siècle, grâce à certains médecins qui ont observé qu'il était nécessaire de se laver les mains et de brûler les ustensiles médicaux en passant d'un malade à l'autre, ce qui sera prouvé un siècle plus tard. Également, l'importance de fonder un enseignement technique à Lyon dans une ville manufacturière où une partie de la population travaille dans une forme de proto-industrie. Alors, comment mettre en exposition ce discours historique, sachant que l'objet reste garde sa centralité. C'est vraiment, nous partons de l'objet pour illustrer un discours, ce qui est un exercice, je trouve, beaucoup plus difficile qu'en histoire de l'art. C'est mon opinion, venant des arts décoratifs. Alors nous avons choisi, j'ai peur que mes photos soient un peu sombres, nous avons choisi une très grande diversité d'objets permettant un certain nombre de rapprochements. Je vous en donne deux exemples. Notre Camille Perrichon, qui a sauvé Lyon de la peste au début, dans les années 1720, et un plat fabriqué par la manufacture Combes portant ses armes. Les pompes funèbres de François Neuville de Villeroy et notre le plus séduisant homme de France d'après Saint-Simon, gouverneur de Lyon, le cabinet de Tencin et une petite bourse brodée que nous avons trouvée dans les collections. Alors, le document est évidemment extrêmement présent. Il vient, nous parlions de la difficulté d'exposer l'écrit, je le rejoins complètement, c'est pas facile, et pourtant c'est nécessaire, mais le support document vient en complément, vient enrichir le propos de l'objet. Là, je vous ai mis deux exemples. On a exposé un exemplaire du Roubaud en lien avec certaines productions, parce que j'ai pas pu m'empêcher de mettre plein d'art décoratif, évidemment, en lien avec ce fauteuil cabriolet, et des documents d'archives qui viennent montrer l'importance du plus grand menuisier lyonnais du XVIIIe siècle, qui est Nogaret, en lien avec des sièges de Nogaret. Je vous montre ces deux chaises, mais il y en a d'autres dans l'exposition. Le document venant contextualiser l'objet, venant en nourrir la compréhension, venant en donner les clés de lecture. Alors, concernant les prêts, puisque tous mes collègues en ont parlé, nous essayons de valoriser les collections des musées Gadane, qui sont assez peu connues et assez peu publiées. Et nous sollicitons nos institutions amies, les archives et la bibliothèque, puisque nous prêtons mutuellement nos collections au gré des besoins des expositions. Nous avons eu quelques refus de prêts, mais que nous avons pu combler en en demandant d'autres. Je pense notamment aux tissus, de mettre une étoffe pour la chambre de la reine. Bon, si on trouve une autre étoffe qui vient illustrer le propos, on n'est pas dans l'œuvre unique, comme vous l'évoquiez hier. Nous, l'objet vient illustrer une problématique posée par l'exposition. Donc voilà, nous avons montré ces étoffes formidables livrées pour toutes les cours d'Europe. Certes, elles sont magnifiques, mais elles sont là pour montrer le côté international et extrêmement prestigieux de la fabrique de Lyon. Bon, ça, j'ai pas pu m'empêcher d'expliquer comment fabriquer un tissu. Je fais un aparté sur l'expo Lyon, la rivière et le fleuve, puisqu'elle a ouvert il y a une dizaine de jours, et nous avons déjà eu une remarque sur le grand Alexandre Dubuisson, dont vous voyez une partie, qui est un tableau monumental que le Musée des Beaux-Arts nous a prêté, et nos visiteurs se plaignent de manquer un petit peu de recul pour le voir. Je reviens à la contrainte des espaces. Mais cet Alexandre Dubuisson, il est très intéressant pour l'histoire de l'art, mais il n'est pas là pour ça. Il est là parce qu'il montre comment on faisait circuler, comment on faisait remonter les bateaux sur les fleuves, et nous l'avons mis en parallèle avec d'autres documents, et ce point de vue est voulu de manière à ce que nos visiteurs, enfin, il n'y a pas besoin d'écrire énormément de textes, on comprend tout de suite comment ça marche, et ce tableau est là pour ça. Si en plus il est beau et esthétiquement appréciable, tant mieux, c'est peut-être un point sur lequel on pourra revenir. Alors, nous avons associé, comme j'improvise, je ne sais plus où j'en suis, nous avons associé aux documents et aux objets, je dis objets ou œuvres, toute une série d'autres médias, et en particulier, Marie-Hélène l'a évoqué dans son introduction, les archives audiovisuelles, qui constituent pour nous un moyen de donner vie aux propos. Alors, nous en avons largement abusé pendant l'exposition Gourmandise, donc vous voyez une partie des tables que nous avions fichées dans le mur, où le document d'archive venait, comme document d'archive, compléter les autres documents originaux présentés. Pour l'exposition Lyon au XVIIIe, nous avons également eu recours. Je vous donne un simple exemple. Pour illustrer l'histoire de la danse, Lyon est une grande capitale de la danse au XVIIIe siècle, où se développe et se théorise le ballet pantomime à travers la figure de Nevers, donc, que je vous présente, qui est ici, qui a produit un certain nombre de ballets à Lyon. Nous en montrons quelques livrets, qui a écrit ses lettres sur la danse, qui théorise le ballet pantomime à Lyon. Nous montrons les lettres sur la danse. Nous montrons également ce magnifique tableau de Nicolas Lancret qui montre la Camargo, qui était la danseuse étoile fétiche de Nevers, danseuse étoile de l'Opéra de Paris, qui est venue danser à Lyon. Donc le tableau est merveilleux, mais c'est encore mieux quand on peut voir danser un ballet de Nevers. Alors évidemment pas du XVIIIe siècle, mais nous avons trouvé dans les archives de l'INA la retransmission en 1989 par un chorégraphe suédois à l'Opéra de Nantes d'une représentation d'un ballet de Nevers. Et ce qui est très intéressant dans ce document, c'est que le chorégraphe explique les sources qu'il a utilisées et comment il les a interprétées. Et je trouve que ce témoignage est tout à fait important dans cette prise de distance que doit avoir le public par rapport aux documents que nous montrons. Alors, comme le temps passe, je ne vous montre pas le devin du village de Jean-Jacques Rousseau. J'évoque très rapidement la place qui est différente, je trouve, de l'archive audiovisuelle, puisque nous l'avons utilisée dans l'exposition Lyon et ses fleuves, à la manière d'un document, comme un document d'archive, un document papier. Là, c'est un document qui vient vraiment, dans le propos, illustrer la problématique de l'exposition. Donc, je passe vite. Nous avons également tenté, nous allons le reproduire pour voir si nos visiteurs continuent d'être intéressés, plutôt que de montrer le document d'archive avec sa page de garde. Nous avons pris le parti de le présenter sous forme dématérialisée, permettant au public, les plus spécialistes, d'avoir recours, de consulter des documents importants pour l'histoire de la ville. Donc là, c'est deux rapports importants pour la soirée. L'histoire de la soirée des années 1730, le rapport de Bourgelat sur l'état de l'imprimerie à Lyon. Ça nous a semblé plus pertinent que d'exposer un énième document écrit pour revenir sur la problématique que nous évoquions tout à l'heure. Alors nous avons également cédé à la mode, mais à une mode néanmoins très intéressante. Nous sommes loin d'être les seuls à exposer ce type de document. Ce sont les restitutions 3D de quartiers historiques. Nous avons travaillé avec une association, Lyon 1700, qui est une association d'historiens et de passionnés d'informatique, qui donc a restitué trois quartiers de Lyon en 1700 pour en mesurer les évolutions. Et nous allons plus loin et ça marche, les visites sont complètes. Nous les emmenons en balade urbaine avec ces historiens et un médiateur de Gadagne, avec une tablette numérique, sur les quartiers pour en comprendre l'évolution et l'histoire. Je passe sur la restitution 3D du pont du Change qui relève de la même problématique. Donc voilà ce que ça donne. Mais bon, vraiment, c'est récurrent. Nous travaillons également en partenariat avec l'Inventaire général des biens culturels Rhône-Alpes qui nous met à disposition de manière systématique pour toutes nos expositions leurs travaux. Donc là, c'est pareil. C'est si on a envie, on peut cliquer sur les petits sièges Nogaret customisés et avoir plus d'informations sur le patrimoine du siècle des Lumières à Lyon. Nous avons également pris le parti d'enregistrer un certain nombre de textes, là encore, pour éviter de surcharger l'œil et de varier les formes d'accès aux documents et de permettre à notre public de faire des pauses un petit peu dans l'exposition. C'est également un point sur lequel on pourrait revenir. Alors nous nous sommes posés également, avant la mise en exposition du discours historique, à qui nous nous adressions. c'est-à-dire la question des cibles. Est-ce qu'on s'adressait au grand public, aux amateurs d'histoire, aux érudits, aux familles? Et nous avons pris le parti de favoriser la mixité des publics et donc de réunir en une seule exposition trois objectifs publics et donc de hiérarchiser l'information. Donc là, j'aimerais également qu'on en reparle, puisque qui dit hiérarchie dit choix, et c'est nous qui avons fait ces choix. Donc on parlait de la réflexion, la dictature sur les publics, une réflexion qui a eu lieu hier, que trop d'explications pouvaient tuer la liberté des publics. Là, nous avons pris ce parti-là pour répondre à des besoins d'histoire différents. Alors, nous avons, d'un point de vue procédé muséographique, joué sur les épaisseurs des cubes, sur les niveaux de socle, mais nous avons surtout développé ce que nous avons appelé les bibliothèques de la connaissance, qui ont une tranche bleue, cela ne vous aura pas échappé, pour évoquer la bibliothèque bleue. Et nous avons placé un certain nombre de documents qui ne sont pas indispensables à la compréhension globale de la problématique, mais pour ceux qui veulent en savoir plus, ils ont la possibilité d'en savoir plus, et surtout, on n'assomme pas le regard du visiteur par une multitude de documents. Alors pour l'exposition Gourmandise, on avait fait des meubles de cuisine avec des tiroirs avec un certain nombre de documents à l'intérieur que nous avons recyclés pour l'exposition Fleuve. Dans cette hiérarchie de l'information, je vais passer vite puisque Michel Hiller en a parlé hier, nous avons aussi hiérarchisé le propos écrit avec trois niveaux de lecture, des bannières d'introduction aux grandes parties qui sont relativement courtes, des bannières de sous-parties en quelque sorte qui abordent les différentes étapes de la programmation. Ne me parlez pas de la taille de la police. Si je peux vous donner un conseil, nous avons mis dans le CCTP que les documents soient lisibles, ce qui est très subjectif. Donc maintenant, nous mettons une police et une taille de police. Parce que j'ai râlé quand j'ai vu les... Et donc, des cartels plus ou moins développés avec des cartels destinés aux enfants. Donc voilà pour l'exposition Fleuve, avec un discours encore plus court qui semble, et une hauteur de cartel et une taille de police, nous testons, parce que alors, le cartel, je crois qu'on pourrait faire un colloque entier sur cette question-là. Néanmoins, malgré ce souci de vraiment hiérarchiser le propos, il nous est apparu important que les visiteurs aient un petit journal, je n'y reviens pas, nous l'avons vu hier à Montpellier, et pour l'exposition Fleuve, nous avons fait un parcours en 10 étapes. Alors il est un peu tôt pour... appréhender la réaction des visiteurs. Pour l'instant, on est plutôt on les rassure avec ce type de document et ils ne se contentent pas d'une exposition en 10 étapes. Alors la dernière cible est celle des familles. Gadagne est très impliquée dans toute une série de procédés pour permettre aux familles de venir au musée, et nous avons conçu un parcours dans le parcours intégré complètement au parcours de l'exposition qui vise à permettre aux enfants et à leurs parents, aux grands-parents ou ceux qui les accompagnent d'observer l'objet, de comprendre le propos de l'exposition par le jeu. Donc ce n'est pas des jeux qui sont placés comme ça pour occuper les enfants, ce sont vraiment des jeux qui leur permettent, en s'amusant et en prenant un certain plaisir, à regarder l'objet sans forcément retenir toute la technique de la marqueterie ou quelle datation à cette table à jeu, ce n'est pas l'important. C'est vraiment de prendre du plaisir à venir au musée. Donc voilà, certains jeux, même fait l'exercice de faire comprendre ce qu'était un rapport de dessin dans le textile. Il faudrait que je teste l'efficacité de ce jeu avec un petit livret. Et puis, nous avons poussé le jeu encore plus loin. Le service des publics a travaillé avec une compagnie de danse et le professeur du CNSMD pour mettre en pas la matelote et permettre à nos visiteurs de danser dans la cour du musée. J'avoue que tout le monde s'amuse bien, même le drac s'y est fait prendre. Bon, moi, je n'ai pas mis Gennaro parce qu'il n'est pas venu, mais Gennaro, quand il veut. Alors, je vais, en 3 minutes, parce que je suis un petit peu en retard, vous parler de la programmation qui, pour Gadagne, constitue un point très important, que ce soit des expositions, du parcours permanent, enfin du musée. La programmation est complètement liée aux objets présentés, à la problématique de l'exposition. Quand on programme un spectacle vivant, c'est qu'il s'est produit à Lyon au XVIIIe siècle. Nous avons produit un spectacle de danse comme on dansait au XVIIIe siècle. Donc il y a une imbrication entre l'objet, la problématique présentée et la centaine de rendez-vous que nous proposons à nos visiteurs à des degrés divers de complexité pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la mixité des publics. Voilà la danse. Nous développons, mais les personnes qui sont passées ce matin l'ont également évoqué, je crois qu'il est important de voir l'exposition en grand et un musée d'histoire le permet. Et nous organisons toute une série de balades urbaines dans les différents quartiers, en lien, pas seulement, mais en lien avec l'exposition, ce qui permet, quand on a vu l'Hôtel Dieu et qu'on a compris tout ce qui se passe, tous les enjeux architecturaux, histoire de la médecine, etc., dans l'exposition, d'aller voir l'Hôtel Dieu en grand et de comprendre la problématique en grand. Je trouve que c'est aussi important. Pour les balades urbaines, nous travaillons avec les différents acteurs et associations des quartiers. Je tiens à le préciser parce que c'est un point important. Et puis, nous favorisons aussi dans la programmation une approche pluridisciplinaire. Je passe rapidement puisque le temps me manque. La place du scientifique, j'ai parlé de grand public, j'ai parlé des historiens trouvent leur compte avec les bibliothèques de la connaissance, mais nous développons, bon ça c'est assez classique, nous le retrouvons dans un certain nombre d'institutions, de manière systématique en lien avec nos expositions, une journée d'études qui permet de développer des questions qui n'ont pu être traitées ou abordées dans l'exposition, de mettre en perspective le local et le national, de prendre du recul aussi par rapport à la problématique de l'exposition et de favoriser un état de la recherche. Donc pour la journée d'études liée à l'exposition qui a eu lieu le 14 mars, nous avons travaillé avec des professeurs de Lyon 3, Lyon 1, Lyon 2, du LARA, du RESEA pour l'histoire religieuse, de l'université de Durham. Et j'aime bien quand de jeunes doctorants viennent également, quand cela est pertinent, faire un état de l'avancée de leur recherche. Et puis nous nous sommes associés avec d'autres colloques en lien avec l'exposition, toujours ce lien. Je crois que c'est très, très important à souligner. Donc nous avons travaillé avec l'ENS de Lyon et toutes sortes d'autres laboratoires sur les voyageuses britanniques à Lyon au XVIIIe siècle et nous avons eu l'opportunité d'exposer 3 récits de voyage de ces dames que Schottenhaus nous a généreusement prêté pour l'exposition. Donc encore cette vision plus large et plus pointue d'un propos développé dans l'exposition. Et nous avons travaillé avec les archéologues de l'INRAP et du service archéologique municipal sur les résultats des fouilles du parc Saint-Georges. Nous avons travaillé avec un chercheur de l'INRAP pour la présentation de la faïence. On pourrait revenir dans les questions si vous le souhaitez. Et cette journée d'études visait à certes faire un état de la recherche, mais aussi à montrer combien l'archéologie de l'époque moderne est aussi un facteur enseignant et complémentaire des visions de l'historien et de l'historien de l'art. Je termine enfin avec la vision. Alors pour Lyon 18e, nous n'avons plus eu l'occasion de le faire parce que nous avons à Gadagne 2 cartes blanches en moyenne par an en fonction de nos moyens. Donc nous l'avons fait sur d'autres projets. En revanche, sur l'exposition Lyon et ses fleuves, j'ai fait appel à un photographe qui a beaucoup travaillé sur la confluence, sur ses habitants, sur la construction, sur la gestion de ce territoire qui s'enfonce au mariage du Rhône et de la Saône. Et donc d'avoir ce regard, nous l'avons évoqué ce matin, donc je vais aller vite, mais ce regard de l'artiste contemporain sur le propos de l'histoire est absolument, enfin, je rejoins mes collègues de ce matin, fondamental pour la compréhension de parler contemporain. Je termine avec 2 points plus agréables. D'abord, pour vous dire qu'une exposition est vraiment un travail d'équipe, donc l'équipe des musées Gadagne qui vous attend, qui est vraiment un travail d'équipe impliquant tous les services comme tous les maillons d'une même chaîne de la communication au service des publics en passant par le secrétariat général et que nous sommes allés encore plus loin. Pour ceux qui ne sont pas encore venus à Gadagne, il y a un jardin merveilleux avec un restaurant, nous sommes à Lyon, il est Toque Blanche Lyonnaise et qui a fait un menu 18e à partir de menus du 18e siècle. Là il travaille, on est dans les Machons pour nos expositions d'été et qui travaillera sur les menus, et il y en a, de l'exposition universelle, internationale et urbaine de Lyon pour que le musée, et ça j'insiste, on s'amuse beaucoup nous en faisant des expositions, donc il faut que le public prenne du plaisir à venir chez nous. Pardon, mais donc ça va, je suis normale.
Merci Marianne. Alors c'était un exposé tellement complet. En fait, vous avez abordé toutes les phases. Non, mais c'est formidable. Donc, est-ce que vous avez des questions? Parce que Marianne a été très précise, mais est-ce qu'il y a des pans d'obscurité que vous souhaiteriez, de curiosité que vous souhaiteriez lever? Et vous êtes trop bonne. Hein, c'est... sur le mesmérisme, on me suggère, oui. Le mesmérisme.
Sur les arts occultes.
En tout cas, il y a une chose que j'ai trouvée très passionnante, c'est la façon dont vous associez la société civile et économique. Et sur le fait, vous avez insisté aussi sur l'importance de raccrocher un sujet d'histoire à aujourd'hui, à la fois de partir des préoccupations contemporaines et d'intéresser des milieux qui ne sont pas forcément familiers du musée. Mais la place du musée et son rôle dans la ville est très, très intéressante et vous l'avez développée.
Oui, tout à fait. C'est pour moi, quand je dirigeais le musée des tissus et le musée des arts décoratifs de Lyon, on avait quelques actions dans la ville, mais c'est vrai qu'un musée d'histoire, et les intervenants de ce matin l'ont vraiment montré, nous donnons du sens. Je ne dis pas que les autres musées ne donnent pas de sens, mais nous donnons du sens dans la mesure où nous avons beaucoup d'actions dans les quartiers. La ville de Lyon est très impliquée dans ce type d'action, et c'est absolument merveilleux. Enfin, je reprends l'exposé sur les harkis ce matin, sur des problématiques d'ailleurs beaucoup moins brûlantes, mais nous travaillons avec un certain nombre d'associations dans les quartiers, avec, et ça je le demande, c'est une condition de notre collaboration, que les gens, nous allons dans les quartiers, mais les gens viennent restituer à Gadagne. On parlait de cette entrée aux archives, il y a ce phénomène d'entrée au musée, et je l'ai vu sur une des slides, enfin des planches de l'exposé de ce matin, d'avoir une histoire commune. Et je trouve que si un musée d'histoire, enfin je fais la transition, si le musée d'histoire peut avoir un rôle dans la société, c'est peut-être autour de cette histoire commune, de ce sens qu'il peut apporter aux habitants, et pas seulement d'ailleurs de la cité.